Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, 18h17, l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez le secrétaire général adjoint de l'UNSA, négociateur sur la question des retraites, Dominique Corona.
Bonsoir Dominique Corona.
Bonsoir.
Bienvenue dans RTL Soir. Alors on a cru ce matin, on a cru en écoutant Édouard Philippe ici même sur RTL que les choses se détendaient. Et puis dans la journée, on a aussi appris que l'UNSA, votre syndicat et la CFDT demandaient le retrait de l'âge pivot d'ici vendredi. Où est-ce qu'on en est vraiment ce soir? Est-ce que le conflit s'est encore durci par rapport à ce matin? Aidez-nous à comprendre s'il vous plaît.
Déjà, Thomas Soto, nous avons pris acte du fait que le Premier ministre avait répondu à un certain nombre de revendications et avait fait déjà une ouverture. L'ouverture de parler des finances et de temps de répondre favorablement à la demande que nous avions de laisser les partenaires sociaux parler des finances, c'est un point positif.
Alors pourquoi poser un ultimatum pour vendredi?
Parce que la difficulté à laquelle nous sommes, c'est qu'il n'a toujours pas dit « l'âge pivot, je le retire, je le mets sous le tapis ». Il nous dit « le projet de loi est prêt ». Donc ça, on le savait, ce n'était pas une surprise, il est au Conseil d'État. Il va arriver dans les caisses de sécurité sociale d'ici la fin de semaine. S'il y a l'âge pivot, ça veut dire qu'il a encore dans le projet de loi l'idée de dire aux partenaires sociaux, mettez-vous d'accord, mais si vous ne vous mettez pas d'accord, vous ferez travailler plus
les Français.
Il y aura l'âge pivot.
Vous ne voulez pas que ça soit le recours in fine.
C'est ça. Le dialogue social, Thomas Soto, ce n'est pas le petit doigt sur la couture du pantalon. Il faut faire confiance à l'intelligence collective. Et il faut donc laisser les partenaires sociaux décider s'il y a un problème de financement et si oui, à quelle hauteur. Et là, nous avons des propositions à faire à ce sujet.
On va y venir sur vos propositions, mais votre ultimatum vendredi, là, si d'ici vendredi, le gouvernement ne dit pas « nous retirons l'âge pivot, c'est terminé », qu'est-ce que vous faites? Vous quittez les négociations?
Alors non, nous on ira jusqu'au bout dans les négociations, mais on continuera à se battre auprès des députés, parce que j'ai bien entendu aussi des députés qui commençaient à dire « l'âge pivot n'est pas une bonne solution ».
Vous savez, députés de la majorité.
De la majorité. Tant que vous avez le Parlement qui n'a pas voté, la loi... elle n'existe pas.
Mais attendez, donc il correspond à quoi votre ultimatum?
Notre ultimatum, c'est de dire qu'effectivement, il faut que, si on veut avoir des réponses concrètes, et si on veut apaiser le conflit, et si on veut que le pays soit plus calme et qu'il n'y ait pas de tension sociale comme il y a aujourd'hui, il faut que le Premier ministre fasse un geste. Aujourd'hui, Thomas Soto, vous voyez bien qu'il y a de l'anxiété partout. Il y a un fort soutien encore à la grève, au bout de plus de un mois. Il y a une majorité de Français, je crois plus de 66%, qui demandent le retrait de l'âge pivot. Il faut que le Premier ministre entende simplement ces revendications-là et qu'il dise de bonne guerre, écoutez, j'ai compris, j'ai entendu et je retire mon âge pivot. Je vous rappelle aussi, je suis dans les négociations retraite depuis avril 2018. L'âge pivot est arrivé en fin de course. Il n'a jamais été dans le paysage au départ.
C'est une mauvaise manière qui a été faite ? L'âge pivot,
c'est pas une mauvaise manière, c'est une façon un peu particulière, je dirais, de parler avec les organisations syndicales. Je vous donne un exemple. Jean-Paul Delevoye était, lui, sur une surcote à partir de 62 ans. Et on s'est retrouvé au mois de juillet avec un âge pivot à 64 ans.
64 ans. Pardon de revenir sur la question de l'ultimatum, parce que je ne comprends pas très bien quel est votre moyen de pression. Si jamais le gouvernement ne vous donne pas raison, s'il vous dit « bah cause toujours », il sait que vous venez quand même aux négociations. Donc, il va peser comment votre
écoutez,
ultimatum?
C'est très simple. Nous avons demandé à nos militants d'aller interpeller les députés, d'aller interpeller les assurés sociaux, d'aller interpeller les salariés pour leur expliquer, continuer à expliquer ce qu'est en train de faire le gouvernement, pour faire pression partout où on peut.
Et vous ferez grève à ce moment-là, à partir du 11 janvier, le samedi?
Écoutez, nous à l'UNSA, on a toujours les deux fers au feu de l'action. La grève, effectivement, est un des moyens, mais aussi le moyen, effectivement, de la pétition, le moyen de la discussion,
mais le
moyen de la
conservation. Mais est-ce que vous allez manifester le 11?
Nous ne manifesterons pas le 11 au niveau interprofessionnel, mais nous avons des fédérations qui sont dans l'action, et je les comprends. Elles sont plus éloignées du régime universel. Donc elles ont plus de problématiques encore pour rejoindre le régime universel. Et elles n'ont pas de garantie sociale. Si nous prenons, par exemple, la SNCF, ou la RATP, ce sont deux entreprises, Thomas Soto, qui ont été très percutées par des événements. Je vous rappelle que l'année dernière, le gouvernement a modifié le statut de la SNCF et a dit aux cheminots, on vous garantit à vous, cheminots, jusqu'au 1er janvier 2020, votre statut. Ceux qui rentreront à partir du 1er janvier 2020
n'ont plus le statut.
Un patatrac, un an après, on leur dit, finalement, tout ça est du passé, puisque la réforme des retraites va vous impacter vous aussi, et donc on est extrêmement là-dessus très très
rigide. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de confiance dans ce que vous dites? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez confiance dans ce que vous dit le gouvernement? Quand Édouard Philippe vous parle, est-ce que vous le croyez?
Ah oui, je le crois, c'est pour ça que je demande qu'il enlève l'âge pivot, parce que le jour où il dira je l'enlève, je le croirai.
On a appris que cette mesure sur l'âge pivot, elle était inscrite dans le projet de loi que le gouvernement a déjà transmis au Conseil d'État pour examen.
Mais vous me l'en prenez.
Vous savez pas?
Je le subodorais, malheureusement.
Oui.
Mais je pensais que peut-être le gouvernement allait dire, bon, comme il y a des problèmes sur le financement, je mettrai un article en disant que le système doit être à l'équilibre, mais je donnerai le moyen peut-être plus tard avec un amendement gouvernemental lors de l'examen.
Mais que ce projet de loi soit déjà transmis au Conseil d'État alors que vous êtes en train de discuter, de négocier, c'est quoi? C'est un acte de procédure? Ça se fait comme ça? Ça prend du temps ou ça a un sens politique?
Non,
ça,
alors pour le coup... Vous voyez, pour le coup, nous à l'UNSA, on est assez honnête. Je veux dire, pour le coup, c'est un acte de procédure. C'est normal. Mmh. C'est comme ça que ça fonctionne. À partir du moment où le projet de loi doit être le 24 janvier, je crois, sur le dossier du Conseil des ministres, pardon, le Conseil d'État et les caisses de sécurité sociale doivent se prononcer avant. Donc, je suis moi-même administrateur conseiller à la CNAM. Je vais donc me prononcer sur ce dossier.
D'accord.
Et nous sommes aussi présents à la CNAV, les caisses nationales d'assurance vieillesse. Et nous allons effectivement aussi nous prononcer. Et donc, le texte va nous arriver là.
Dominique Corona, Édouard Philippe l'a redit devant les députés, si les organisations syndicales et patronales, donc vous, font une proposition meilleure, plus intelligente sur laquelle ils s'entendent, alors je vous le dis, nous la prendrons à notre compte. Est-ce que vous avez ce soir une proposition meilleure et plus intelligente à faire que l'âge pivot?
Alors, nous en avons fait plusieurs. La seule difficulté, c'est qu'à partir du moment où il met l'âge pivot dans le paysage, nous avons en face une fin de non-recevoir assez forte des employeurs. Pourquoi?
Pas l'âge pivot, la hausse des cotisations.
Parce que les employeurs nous disent effectivement, on ne veut pas discuter puisqu'il y aura l'âge pivot. Nous, on propose, vous avez en 2024 la CADES, donc la fin de la dette sociale. Vous avez donc une cotisation sociale aujourd'hui sur les salaires, le CRDS, qui fait 7 à 9 milliards d'euros. Mmh. Une partie pour être prise sur les retraites. Vous avez les cotisations déplafonnées pour les salariés de plus de 10 000 euros. Vous savez, 10 000 euros, demain, il n'y aura plus de retraite.
Hausse des cotisations, après, le gouvernement n'en veut pas, le patronat n'en veut pas.
Vous avez la hausse des cotisations pour les salaires au-dessus de 10 000 euros. Nous pensons, nous, qu'on pourrait être au-delà de 2,8%. Mmh. Vous avez les cotisations employeurs. Oui, il faut les mettre effectivement.
Le patronat n'en veut pas.
Et le patronat n'en veut pas. Et donc, à partir du moment où il y a l'âge pivot, on ne peut pas se mettre d'accord tant qu'il y a l'âge pivot parce que l'employeur dit, mais attendez, moi j'ai tout intérêt à ne pas négocier. Puisque de toute façon, le gouvernement me donnera raison, comme il m'a donné raison sur la pénibilité. Et donc, vous voyez bien, dans le corner dans lequel nous sommes.
Pardon, mais on a quand même l'impression d'être dans un jeu de trompe-couillon, quoi. C'est-à-dire que chacun avance les mêmes choses, répète les mêmes choses, et propose-moi mieux et je le ferai, et t'as pas mieux donc je le fais pas. Et ça fait 34 jours que ça dure, 34 jours que nos auditeurs, là, sont dans la galère, dans les transports, dans les embouteillages, dans les trains, dans les métros. Ça suffit quand
même.
Mais
vous savez, Thomas Soto, la première alerte.
Vous n'êtes pas responsables tous les uns, autant que vous êtes, que soyez politique, syndicat, patronat.
Thomas Soto, la première alerte a été faite au mois de septembre. Et moi, j'étais dans toutes les réunions. Nous avons dit au Premier ministre, il faut parler avant le 5 décembre. Parce que la première alerte au mois de septembre, c'est on va faire grève en septembre si on n'a pas de réponse. En décembre, pardon, si on n'a pas de réponse. On a dit au Premier ministre, il faut désenquister le pays. Il faut répondre aux salariés qui vont se mettre en grève. Il faut éviter le blocage. La réponse, ça a été de parler bien après le 5. Et là, et entre le mois de septembre et le mois de décembre, que s'est-il passé? Trois fois rien.
La faute au gouvernement, donc, selon vous?
Écoutez, il a une lourde responsabilité dans la situation actuelle, oui. Franchement, oui.
On a pas mal de questions au 3210, et notamment Olivier qui nous appelle d'Elancourt dans les Yvelines et qui est cadre d'entreprise. Bonsoir, Olivier.
Oui, bonsoir.
Monsieur Corona écoute votre question.
Oui, bonsoir. Donc, je ne suis pas dans le cadre d'entreprise. En fait, je suis dans la fonction publique.
Ah, pardon, cadre de la fonction publique.
Pas de souci. Écoutez, moi, je gère un gros service. On est une quarantaine d'agents. J'ai des agents qui ne peuvent plus se rendre au travail, donc ils sont obligés de prendre des jours de congé. Il y en a certains qui n'ont plus de jours de congé, qui ne seront plus payés à la fin du mois pour certains jours qu'ils ne pourront plus prendre. Ce matin, j'ai mis 1h30 pour faire 27 km pour me rendre au travail. Je pense que l'ensemble des usagers commence à être un petit peu exacerbé. Je comprends tout à fait votre volonté de faire avancer ce mouvement et de faire avancer le gouvernement, mais il faut peut-être un petit peu arrêter de prendre en otage les usagers. Qu'est-ce que vous pensez? Quand est-ce que ce mouvement s'arrêtera?
Elle fait des dommages collatéraux, cette grève, y compris des gens modestes, des gens en payent le prix financièrement.
Bien sûr. Vous savez, les gens ne font pas grève par plaisir. Et par exemple, dans la fonction publique, nous avons de grandes inquiétudes, par exemple, sur les catégories C, la fonction publique territoriale. Je vous rappelle que ce sont les agents qui sont très mal payés et qui sont au service des collectivités locales. Demain, le nouveau calcul, par exemple, ils n'ont pas, pour la plupart, n'ont pas de primes. Ça veut dire qu'on va avoir une baisse de pension de ces salariés-là. Si on n'oblige pas les employeurs territoriaux à donner des primes à ses salariés.
Donc vous dites, mais vous dites et quoi aux usagers des transports que, donc, ça vaut le coup de tenir, c'est ce que vous dites.
C'est qu'on défend, on défend effectivement l'ensemble des salariés. Et il y a plein de sujets. Et vous, dans la fonction publique, vous êtes bien placé pour le savoir que la prise en compte des primes, par exemple, va... pour ceux qui n'en ont pas, va poser une vraie difficulté. Et donc, moi, j'entends ce que vous dites et je suis plus d'accord avec vous. On ne peut pas aujourd'hui... voilà, moi-même, je mets des heures pour aller au frottement de négociation aujourd'hui. Mais le gouvernement doit entendre. Il doit entendre qu'il doit donner des garanties pour tous les salariés.
Merci beaucoup à vous, Dominique Corona, d'être venu ce soir dans RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de l'UNSA. Merci et bon courage pour le retour parce que ça ne roule pas très bien non plus du côté d'RTL. Merci à vous.
Merci.
RTL Soir, 18h27.
À suivre, le rappel des titres avec Céline Landreau, suivi de l'œil d'Andrea Bescon. Attention, ce soir, Andrea n'a pas l'air tout à fait étanche. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc.
Thomas Soto, RTL Soir.